On va lire dans Romains chapitre 2, versets 25 à 29. L'épître aux Romains, chapitre 2, versets 25 à 29. Certes, la circoncision est utile si tu pratiques la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais il vient de Dieu. Amen. C'est clair? Vous avez tout compris? Je vois que c'est la parole de Dieu, hein? C'est pas ce que j'ai inventé, hein? Comme quoi, parfois, il y a des passages qui ne sont pas forcément d'une évidence claire. Ok? Et c'est très souvent ces passages-là qui sont utilisés et qui conduisent à des hérésies. Parce qu'on veut les comprendre, on prétend les comprendre et on les comprend de travers. C'est un des passages que j'utilise, mais qu'il y en a d'autres, pour cette fameuse théologie, hein, qu'on appelle théologie de la substitution ou du remplacement. On va en parler un petit instant. Tout à l'heure. Mais comme moi j'aime bien les images, les croquis, tout ça, je suis visuel moi. Hein, je sais pas. Il y en a qui sont visuels ici, je ne suis pas tout seul. Voilà. Quels sont ceux qui sont intellectuels? Que le cerveau droit. Voilà, moi je suis cerveau gauche, un peu comme les femmes. Hein, enfin, voilà, c'est les deux. Voilà. Donc il me faut des images pour me rappeler. Alors, j'aime bien les images. Alors, je pose une question. La ville de Jérusalem, hein, ça s'appelle ville de Jérusalem, ça veut dire quoi? Ville de paix. Hein. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de paix, hein, là-bas. Même dramatique, puisque vous pouvez vous faire, vous, enfin les Juifs se font poignarder à n'importe quel endroit. En ce moment, par des jeunes, même de 13 ans, hein, qu'on nous a dit, de 13 ans, imaginez, qui sont là, qui peuvent vous planter un couteau dans le dos. Donc, c'est vraiment pas la ville de paix. Jérusalem, ville de paix. Quel est un autre nom pour Jérusalem? Pardon? Sion. Sion. Alors, il y a un terme qui est utilisé aujourd'hui, c'est un peu de ça qu'on va parler, qui s'appelle le sionisme. Il y en a qui ont entendu parler de ça, du sionisme. Sionisme. C'est important de repérer ces choses-là parce que tous les jours au travail, là où vous allez, aux entourages, vous pouvez entendre parler de ça. C'est important qu'aujourd'hui vous puissiez mettre des choses sur des noms que vous pouvez entendre autour de vous. Donc on parle de sionisme. Hein. Voilà. Alors Sion, qui est la même chose que Jérusalem, sionisme. Oui, tous les ismes, c'est des mouvements. Hein, christianisme, bouddhisme, sionisme, voilà. C'est un mouvement pour quoi? Pour Sion. Savez, j'aime bien l'interaction parce que je capte votre attention et je vois si vous me suivez. Alors, christianisme, ça s'occupe de quoi? De Christ, de chrétien. Sionisme, ça s'occupe de Sion. Voilà. Donc, allez-y, expliquez-moi le sionisme. Ça s'occupe de Sion. C'est quel mouvement, le sionisme? Le retour à Sion. Bon, il y en a un qui suit, là. Hein? Donc, vous avez ici la mer, hein, Méditerranée. Vous avez ici Sion. Alors, j'ai dessiné le drapeau Israël, voilà. Sion. Donc le sionisme, c'est le mouvement qui considère que les Juifs reviennent à Jérusalem, à Sion. C'est le retour à Jérusalem. Ok, ça va? C'est simple pour l'instant? Hein, c'est plus simple qu'aux Romains, là, qu'on a lu, la circoncision. Voilà. On va essayer de simplifier les choses aujourd'hui. Hein. Donc le retour à Sion, le sionisme. Alors ça fait un peu dresser les gens inconvertis autour de nous, hein, parce que voilà, ils disent voilà, vous êtes sionistes, voilà, et beaucoup de chrétiens, enfin les chrétiens évangéliques sont sionistes. Le retour à Sion, on en parlera cet après-midi dans les témoignages de Colette et de moi-même. C'est comme ça que je suis venu au Seigneur, en réalisant que le Seigneur a préparé son retour pour venir à Sion, parce que le Seigneur il revient. Il y en a qui ne le savaient pas, si? Vous voyez, on parle de Jésus il y a 2000 ans. Mais c'est loin, 2000 ans. Il n'y a personne qui a vécu 2000 ans ici. Donc on n'a pas vu, mais on croit. Hein. On a l'histoire, on a beaucoup de choses qui parlent de Jésus quand il était là sur la terre. Hein. Vous croyez bien que ce n'est pas un mythe. Hein. J'espère que vous croyez en Jésus, en chair et en sang, qui est venu donner sa vie. Il est venu. Est-ce que vous croyez qu'il peut revenir? Oui. Mais est-ce que les gens autour de vous, ils y croient, ceux qui ne sont pas chrétiens? Non. Donc voyez, vous croyez à une réalité, parce que vous croyez que cette réalité va venir. Dans ce Jésus qui est venu il y a 2000 ans, il va revenir. Mais est-ce qu'il va revenir de la même manière? Est-ce qu'il va venir dans une crèche? Non? Comment est-ce qu'il va revenir? Sur un cheval. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'on a chanté ce matin? Que Jésus est. Oh, bah tout le monde n'a pas chanté alors. Qu'est-ce qu'on a chanté ce matin? Que Jésus est. Que Jésus est. Il est qui? Roi de qui? Ah, vous voyez, déjà ça se divise là. Déjà ça se divise. Voilà. Vous voyez, ça c'est la confusion évangélique là. Hein? Il est roi. Je m'attendais à ce que vous disiez, il est mon roi. Ça commence pas. Il est roi de qui? Mon roi. Là déjà, il n'y a plus de division. Hein. On est d'accord que c'est votre roi. Hein, c'est la première chose qui doit venir à l'esprit, c'est mon roi. C'est mon roi que j'attends. Le roi de gloire. Et il viendra en gloire. Alors, effectivement, un cheval, est-ce que c'est un cheval? Bon. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il vient en gloire. Il ne vient pas dans une étable. Sa mission, il l'a faite il y a 2000 ans. Il a porté les péchés à la croix, mais il vient en gloire. Et c'est ça qui m'intéresse. Vous voyez, les chrétiens, vous devriez tout le temps, bien sûr, on a des soucis, mais avoir le sourire au sens du sens que vous avez. Que vous avez du sens dans votre vie. Vous attendez un roi qui existe, qui va revenir en gloire, et qui va faire quoi quand il va revenir? Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai entendu les. Oui? Pardon? Juger les peuples, oui. Qu'est-ce qu'il fait encore? Qu'est-ce qu'il va faire Jésus quand il va revenir? Oui? Régner où? Pardon? Avec qui? Avec qui? Non, j'attendais que vous fassiez une erreur, vous voyez. Pour une fois, vous dites la vérité, j'attends l'erreur. J'attendais que vous dites pour les Juifs. Ah non, mais attendez, tout le monde ne répond pas comme vous. Vous êtes des élèves modèles, vous avez compris, c'est bien. Oui, il vient pour nous, il vient pour l'Église. Et l'Église, c'est qui? Oui, mais est-ce que les Juifs sont dedans? Ah, bonne réponse. Vous n'avez que des bonnes réponses ce matin. Oh là là, vous me décevez là, vous voyez. J'ai rien à vous apprendre. L'Église, c'est tous, y compris les Juifs. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on parle du sionisme? Et pourquoi est-ce que ça fait tant de problèmes? Si tout le monde était d'accord comme vous, il n'y aurait pas de problème. Toute la planète s'entendrait, tous les chrétiens s'entendraient. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, je vais vous faire une autre image qui va vous expliquer pourquoi ce n'est pas le cas. Parce que Dieu, il a appelé le premier homme qu'il a appelé et qui a fondé la foi dans ce Dieu vivant que nous adorons, c'est qui ? Abraham. Abraham, c'est le premier qui a... Abraham, oh là là, il coule. Waouh ! Je change de silo. Abraham. Quel est le fils d'Abraham ? Isaac ? Non, celui-là, ça. Isaac ? C'est le stylo à Elsa. La mauvaise qualité. Il faut s'adresser à l'ingénieur qualité, là. Quelque chose qui va pas. Abraham, Isaac, troisième. Jacob. Jacob qui a changé de nom, qui s'appelle Israël. Okay. Parce que Jacob veut dire quoi? Trompeur, le tordu, trompeur. C'est pas très beau, hein, porter un nom comme ça. Israël, ça veut dire quoi? Le vainqueur. Il y en a qui veulent être Israël ici? Vainqueur? Amen. Donc Israël, Abraham, Isaac et Jacob, c'est les premiers croyants et nous sommes tous basés sur la foi d'Abraham. Ensuite, après, il y a eu qui a reçu les tables de la loi? Moïse, il a reçu les tables de la loi et donc c'est lui qui a établi le peuple. Parce qu'avant, c'était une famille, hein. C'était les 12 tribus, c'était des patriarches. Ça. Moïse, celui qui a établi le peuple d'Israël. Ok. Ensuite, après, bon, je vous donne la réponse, on va très vite, Jésus. D'accord. Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il est venu faire, Jésus? Pardon? Oui? Il y a d'autres réponses, il y a beaucoup de réponses pour Jésus. Qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce cadre-là? Oui, la nouvelle loi, donc il y a une nouvelle loi. Qu'est-ce qu'il est venu faire encore Jésus? Pardon? Oui, c'est par la grâce. Réconcilier? Oui. Qu'est-ce qu'il a accompli? Les promesses et les prophéties. Les prophéties, c'est ce qui est annoncé. Tous les prophètes ont annoncé que Jésus allait venir. Sauf qu'ils ont annoncé deux choses en même temps. Et ils ont annoncé qu'il allait venir pour sauver et pour venir en gloire. Et les gens préfèrent la gloire. Et quand ils étaient sous l'occupation romaine, comme nous, sous l'occupation allemande, on était content que des gens de l'extérieur viennent nous libérer. Et ben, ils étaient dans la même attente. Et ils préféraient croire à la deuxième partie de la prophétie, qui est pour nous maintenant. Mais à l'époque, ils espéraient que Jésus revienne en gloire pour libérer de l'oppresseur. C'était ça. Vous voyez la préoccupation très, très centrée sur soi. Au lieu d'être centré sur les nations, c'est centré. Eux, ils voulaient être libérés de l'oppresseur. Et donc, ils attendaient Jésus en gloire. Mais il est venu comme un bébé. Et ça a perturbé effectivement leur attente. Et du coup, ils ont passé à côté et ils l'ont crucifié. Okay. Donc il est venu apporter le salut. Et à partir de Jésus, qu'est-ce qu'il a établi entre autres avant de sa mort, avant de partir? Matthieu 16, son Église. Jésus a établi avant de partir, là, c'était le peuple d'Israël, hein, Moïse, peuple d'Israël. Et Jésus est venu établir l'Église. Église, c'est un mot qui est d'origine grecque. Il s'appelle Ecclésia. Et Ecclésia, qu'est-ce que c'était que l'Ecclésia à l'époque de Jésus? C'était t'as écouté Luc Maroni, toi? Mais il y en a d'autres hein, qui ont écouté. On devrait y avoir la même réponse. Luc Maroni a très bien expliqué ce que c'est que l'Ecclésia. C'était une assemblée qui était hors de la ville. C'était hors de la ville. Vous rappelez son image, là? Il a projeté, là. Hors de la ville. Et c'est une assemblée qui gouverne la ville. À partir de l'extérieur, il gouverne la ville. Et c'est ça que Jésus a pris comme modèle pour établir son Église. Nous sommes là pour gouverner. Hello? Vous gouvernez, vous, dans la vie, ou vous êtes sous la gouvernance de quelqu'un? Vous voyez, c'est déjà là, il y a un problème. Hein. Si l'Église ne gouverne pas, elle n'est pas l'Église que Jésus a établie, en tout cas. Je vous renvoie des cassettes de Denis Peacock, on va les transformer en MP3 pour que vous puissiez les écouter. C'est en fait l'apôtre de nos apôtres en France, qui dirige l'apostolat RNC, Denis Peacock. Et il a un enseignement là-dessus. Moi, j'ai jamais entendu parler d'un autre enseignement qui, pour moi, a été la base de cette Église, de compréhension de l'Ecclésia. Donc, l'Église. Alors, l'Église, ensuite, après, elle est partie de Jérusalem, elle est partie dans tous les sens, dans toutes les nations. Vous êtes d'accord? Ok. Et tout un tas de branches, toutes les îles, toutes les nations ont été, depuis 2000 ans, ont été évangélisées. Il y a encore des parties qui ne sont pas évangélisées, mais le Seigneur continue à parler à toutes les nations. Alors, habituellement, ce qu'on peut faire comme dessin pour bien comprendre, c'est un arbre, vous voyez, avec des racines. Voilà, c'est un arbre. Et Jésus est un juif, vous êtes d'accord? Hein? Jésus est un juif. Il est de la lignée de David. Et cet arbre, nous dit Romain aussi, hein, on ne l'a pas lu ce matin, mais quelques pages après, Paul explique ça. De cet arbre, il y a une greffe. Il y en a déjà qui ont vu une greffe? Sur un arbre. Allô? Non? Vous savez ce que c'est qu'une greffe? C'est très facile, hein. Vous prenez un autre, par exemple, vous voulez un cerisier, vous prenez un cognassier, n'importe quoi, un truc ordinaire, et vous taillez en biseau. Hein, je l'ai fait avec un spécialiste qui est venu chez moi pour me greffer des pommiers. Vous le mettez en biseau, vous mettez un petit peu de sève. Okay. Vous le mettez sur le tronc, vous l'ouvrez, vous le mettez dedans, enfin il ne faut pas qu'il y ait d'air et tout ça, il y a quelques précautions à prendre, et c'est fini. Et vous avez un cerisier, vous avez ce que vous voulez, hein, n'importe quel fruit hein, que vous voulez, en fonction de ce que vous greffez ici, vous avez ensuite des fruits hein, qui sont... l'origine de la greffe. Quel que soit le tronc qui est là, vous avez le fruit que vous avez greffé. Donc, la parole de Dieu nous dit que nous, qui ne sommes pas juifs, il y a des juifs parmi nous, ça se pourrait, nous ne sommes pas juifs, nous avons été greffés sur l'olivier. L'olivier, c'est l'arbre de base pour désigner Israël. Nous avons été greffés. Et ça, si maintenant on met des dates là-dessus, c'est il y a 2000 ans, moins 2000 ans. D'accord? Abraham, c'est combien? Moins combien? Non, plutôt 4000. Moins 4000 à partir d'ici, d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Et qu'est-ce qui vient de se passer en 1948? Alors pour moi, c'est facile à me rappeler, c'est ma date de naissance. C'est ma date de naissance. C'est création d'Israël. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment est-ce que vous mettriez ça sur mon schéma, là? Pour que ça prenne du sens, pour que ce soit théologiquement vrai par rapport à la Bible. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un fruit de l'Église? Est-ce que c'est une autre branche de l'Église? Qu'est-ce que c'est? La création d'Israël, 1948. Je vous écoute. Lancez-vous. Pardon? Une? Oui, c'est vrai, mais là, je vous demande quelque chose de précis. Peut-être ça vous embête comme question. Comment sur le schéma vous allez le mettre? Pardon? Le tronc qui continue. Pardon? Les racines. Alors, il y en a qui disent les racines, d'autres le tronc qui continue. C'est pas la réponse à ma question. Sur le schéma là, comment si vous, je vous donne la si je vous donne le crayon, qu'est-ce que vous allez faire là? Pour que ça prenne du sens par rapport à la parole de Dieu. Tout en haut. Tout en haut. Bon, pardon? Vous avez tous de bonnes idées, mais c'est pas la mienne. Alors je vais vous dire comment moi je le vois, parce qu'en fait, un tronc, il a de temps en temps des excroissances comme ça. Vous voyez? Voilà. Il a une excroissance, et en fait, c'est là que ça repart. Parce que la greffe, en haut de la greffe, ça, c'est le produit de ce que j'ai greffé. Okay? Mais en 1948, en 48, si vous voulez, ce tronc-là, qui était le tronc d'Israël, il est resté en sommeil. Voilà, il est resté en sommeil. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on appelle ce sommeil d'Israël? La diaspora. Bien, Marie-France. Ça veut dire qu'ils ont été dispersés. Diaspora, c'est dispersé. Okay? En quelle année ça s'est produit à Sion, à Jérusalem? La dispersion? 70, en 10, en 0,70, les Romains sont venus, ils ont tout rasé. Ils ont tellement tout rasé, Sion, Jérusalem, qu'ils ont mis du sel. Vous savez, quand les Romains mettent du sel, ça veut dire quoi le sel à la fin? C'est-à-dire qu'on fait tout mourir. Le désherbant, c'est du sel qui fait tout mourir. Il n'y a plus rien. Ils voulaient être sûrs qu'il n'y a plus rien qui repartent de Jérusalem. Vous voyez? Ça, c'est la volonté humaine, mais qui est la volonté satanique. Derrière, il y a toujours des esprits. Hein? Derrière les agissements des hommes, toujours des esprits. Satan s'est dit, c'est terminé, on ne voit plus des juifs. C'est fini, c'est fini. Il n'y a plus que l'Église. Okay? Mais en fait, il y a ici, eh bien, la vie qui est repartie de ce tronc-là. Qui est le tronc des Juifs. Ça, c'est les Juifs. Okay, il est reparti. Et pourquoi il est reparti? Parce que Dieu l'a voulu. Voyez, souvent dans nos prédications, on parle de mystère. Ces derniers temps, j'étudiais un peu les mystères de la Bible et je ne m'étais pas rendu compte qu'il y a autant de mystères. Vous aimez les mystères? Dans les BD, les mystères. Le mystère, quand la Bible parle de mystère, hein, le mystère, par exemple, il y a un mystère qui est que Christ vit en nous. L'apôtre Paul le dit. Le mystère, c'est Colossiens 1, 27. Le mystère de Christ en nous, c'est un mystère. Okay? Christ en nous. Il est là, il n'est pas là. Quand vous dites ça aux gens du monde, disent Christ vit en moi. Attends, il est fou, quoi. Oui, mais c'est une réalité, mais en même temps, c'est un mystère. Mais le mystère, ce n'est pas le côté mystérieux de ce que les hommes appellent les mystères. Le mystère dans la Bible, quand le terme utilisé mystère, c'est que c'est quelque chose qui est annoncé d'avance, que personne ne peut comprendre. Quand ce mystère a été dit dans l'Ancien Testament, les gens ne comprenaient pas. Mais quand il est accompli, quand par exemple ce matin j'ai lu, il donnera un cœur nouveau, etc., c'est ça le mystère de Christ en nous. Mais quand il vient, en fait, il s'éclaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un mystère. C'est simplement à un moment donné, dans l'histoire, les choses se révèlent, se mettent en place, si vous voulez. C'est un peu comme vous aujourd'hui, admettons que vous n'avez jamais vu Paris. Pourtant, ce n'est pas très loin. Pour vous, c'est un mystère. Vous dites, ouais, mais Paris, il y a ça, voilà. Vous êtes là en train de converger, c'est quoi ça? Bah, il suffit d'y aller et hop, vous découvrez le mystère. Voyez, vous y allez. Voilà, c'est ça. Dans la Bible, le mystère, c'est quelque chose qui est caché à cause des prophéties, mais que vous découvrez quand vous rentrez dans la réalité de ce qui existe. C'est clair? Ok. Voilà. Eh bien, ça, le fait que Israël, donc Jérusalem, il reprend vie alors que pendant 2000 ans c'était fini, eh bien c'est un mystère pour les nations. C'est un mystère pour les nations. C'est pour ça que les questions qui sont venues cette semaine, c'est de dire, mais comment est-ce que, au travail, mes collègues, tout ça, quand on parle de ça, comment est-ce que je peux les convaincre? Mais vous ne pouvez pas les convaincre, ce n'est pas possible, c'est un mystère. Ça va rester un mystère. Ça ne s'éclairera que quand eux-mêmes rentreront dans la conversion à Jésus-Christ. Ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'on comprend les mystères parce qu'on les vit. On vit des réalités qui sont des mystères pour les autres, et qui l'étaient pour nous avant, qui d'un seul coup s'éclairent. Vous n'avez pas vécu ça quand vous êtes converti? Il y a des choses que vous étiez loin d'imaginer, et d'un seul coup vous avez dit, mais c'est évident. Vous voyez, c'est évident parce que c'est une révélation. C'est que vous êtes rentré dans une autre phase de la réalité. Voilà. Donc pour revenir, 1948... L'État d'Israël, Israël tout court en tant que nation, c'est une émanation de ce qui aurait dû suivre ici, mais en fait qui reprend ici. C'est-à-dire, c'est un mystère que Dieu utilise pour confondre les nations dans leur orgueil. Vous voyez, les nations, dans leur orgueil, disent « Oh, mais ça va continuer comme avant ». Ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. Hein, ça, c'est le bouddhisme, c'est le temps cyclique, sans fin, c'est un cycle, etc. Ben non, mes amis, ça ne va pas continuer comme un cycle bouddhique. Ça va s'arrêter, parce que c'est une histoire. On est dans une histoire que Dieu tient dans sa main. Et ça passe par Israël. Okay, ça part par Israël. Et Israël est là un mystère pour les nations, mais qui n'est pas un mystère pour nous. Mais pour autant, ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église. Par contre, ils font partie de l'Église. C'est ça qui est difficile à comprendre. C'est que les Juifs messianiques font aussi partie de l'Église. Les Juifs qui acceptent Jésus. Parce que ça, c'est spirituel, et ça, c'est physique. C'est physique. Et les deux sont utilisés par Dieu. Et Jésus est venu pour toutes les nations. Quand il va revenir pour toutes les nations, y compris Israël. Mais en même temps, Israël est un élément qui est comme un caillou dans une chaussure des nations, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et vous ne pourrez pas leur expliquer, parce que la réelle explication, c'est celle que je viens de vous donner, les spirituels. Et même l'Église n'a pas compris ça. Alors, Jésus, l'Église, par contre, est quoi? Comment est-ce que la Bible définit l'Église, en dehors de ce que je vous ai dit, qui est l'Ecclésia? L'Église, comment elle s'appelle encore? Le corps de Christ. Alors, encore un mystère. Vous comprenez-vous ce que c'est que le corps de Christ? Je veux dire, on le dit tous, le corps de Christ. Mais comprendre réellement, c'est un mystère. Sauf que quand vous n'avez pas besoin de comprendre le mystère, vous rentrez dedans et le mystère est révélé. Vous êtes, vous, dans le corps de Christ. Dis à ton voisin, tu fais partie du corps de Christ. Dis-le à ton voisin, tu fais partie du corps de Christ. À condition que tu aies accepté Jésus comme sauveur, hein, attention. Hein. Donc ceux qui n'ont pas accepté Jésus, je vous invite à le faire ce matin pour que vous soyez dans le corps de Christ. Ok ? C'est une réalité spirituelle. Okay, le corps de Christ. Et quand on prend le repas, on participe au corps de Christ, qui est universel. C'est un corps spirituel. Okay, c'est pas Sion, c'est pas... Voilà. Donc le corps de Christ est une réalité spirituelle pour tous ceux qui croient que Jésus est leur sauveur, mort et ressuscité dans son corps. C'est pour ça que nous prenons le corps de Christ, le pain en tant que corps, hein, qui représente son corps. Qu'il soit d'origine juive ou pas. Voyez-vous, ça n'a rien à voir avec l'origine. Les juifs qui acceptent Jésus sont dans l'Église. Voyez-vous, sont dans l'Église. Comme les... Il y a des Martiniquais ce matin? Des Guadeloupéens, vous faites partie du corps de Christ. Oui. Qu'on soit blanc, noir, rouge, vert, ou peu importe, jaune, qu'on soit de n'importe quelle nation, on est dans le corps de Christ, qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit n'importe où, on est dans le corps de Christ. Vous voyez, c'est une réalité spirituelle. Ok ? Ça reste encore simple ? Ok. Donc ça, c'est une réalité. Israël, c'est le peuple de l'ancienne alliance qui n'a pas cessé d'exister en tant que héritage, en tant que voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, Claude Zagouri a dit, il sait plus de quelle tribu il est parce que c'est tellement de mélange. Mais ils savent qu'ils sont juifs. Ils savent qu'ils ont une origine juive. Alors ça, c'est un peu bizarre aussi parce qu'il y a des mélanges aussi. Hein, mais voilà, ils savent quand même qu'ils sont juifs et qu'ils se réclament d'être juifs. C'est le peuple, Israël est le peuple de l'ancienne alliance qui n'a pas cessé d'exister. Preuve en est donc l'État juif aujourd'hui qui s'est refondé en 1948. Mais l'Église, donc l'Église naissante ici, l'Église qui a démarré ici, mettons les premiers siècles, hein, deuxième, troisième siècle, voilà, à cause de l'orgueil. Est-ce que vous croyez que dans l'Église, il y a de l'orgueil ? Oui. Est-ce que vous pensez que vous n'avez plus aucun orgueil en vous ? Ah, mais donc, est-ce que vous êtes honnête ? C'est pas possible. Ah non, mais j'en suis baba. Donc, vous voyez, si nous, on reconnaît qu'il y a de l'orgueil, imaginez l'Église au temps de Constantin. Constantin, c'est un empereur romain. Constantin, c'est-à-dire 416, je crois, qu'il a pris. Lui, il s'est converti à Jésus-Christ. Fantastique, parce qu'avant, les chrétiens, on les emmenait dans les arènes pour les faire manger par les lions. Voilà, c'était les martyrs chrétiens. Et Constantin, lui, il s'est converti suite à une expérience qu'il a faite. Et il a dit maintenant, c'est fini, tout le paganisme. On détruit les temples et tout ça, et ce sera le christianisme qui sera la religion d'État. Waouh, incroyable. Comme ça, un décret royal, et tout le monde est chrétien. Vous y croyez ça ? Qu'est-ce qui croit que, comme ça, par un décret royal, impérial, tout le monde est chrétien ? Vous avez déjà vu ça ? Ben, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ce qui fait que les gens de l'époque... c'est super. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête, les gens de l'époque, quand ils ont entendu ce décret ? Vous pouvez un peu imaginer ce qui s'est passé ? Imaginez-vous à l'époque, vous êtes païen. Vous adorez des statues, vous adorez n'importe quoi. Et d'un seul coup, le roi, l'empereur, il dit « Ah, maintenant, tout le monde doit être chrétien. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, vous allez à l'église. Bah, vous allez à l'église. Bah, pourquoi ? Parce que vous avez tout intérêt. » Parce que si vous voulez un job comme facteur, comme à l'administration, tout ça, toutes les portes sont ouvertes, vous êtes chrétien, vous acceptez la religion du roi, et c'est bon. Donc tout le monde est devenu chrétien. Enfin, tout le monde, c'est un peu rapide, mais bon, en gros, c'est ça. Et l'Église est devenue ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église. Pardon ? Institution, mais ce n'est pas vraiment le bon terme, c'est l'église de masse. C'est l'église où la masse des gens sont rentrés. Ça s'appelle aussi un autre mot, l'église, je trouve plus le terme, quelqu'un peut me le souffler. Aujourd'hui, l'église catholique, l'église protestante, l'église orthodoxe, tout ça. L'église de multitude, voilà, les multitudes. C'est un terme consacré, masse ou multitude. La multitude est entrée. Waouh! Multitude. C'est marrant parce que quand le père Potier m'a invité à sa messe finale quand il a quitté, il m'a demandé d'apporter un témoignage. Donc je l'ai apporté à l'église catholique du Val-Fouré, là. Et Val-Fouré, je ne sais pas, ils sont peut-être 1000 ou 1200 quand la salle est pleine. Et à un moment donné, la salle était aux trois quarts pleine. Et puis, à un moment donné, dans la messe, je vois, waouh, tout un tas de gens qui rentraient. Je dis, waouh, c'est incroyable, ça. Et en fait, c'était presque que des hommes qui rentraient. Et ils ont tout rempli derrière. Tchou, c'est pas possible. Et ça m'a fait penser à ce que moi, j'ai vécu quand j'étais jeune, quand j'étais dans mon enfance. C'était pareil. n'y a pas de changement. Vous voyez, les réflexions les mêmes. C'est-à-dire que les hommes viennent à la fin pour ensuite, après, se retrouver dans les cafés, tout ça, parce que c'est un rendez-vous. Bon, c'est facile de dire, voilà, je vais à l'église. On se retrouve au rendez-vous. On reçoit la bénédiction, parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent être bénis. Ouais, c'est super content, ils ont béni. Hein. Oh, la bénédiction finale. Puis après, ils vont dans les cafés, ils vont jouer aux cartes et tout ça. Et puis, pendant que Bobonne ait fait le repas, ils rentrent chez eux. Non, non, mais bon, je caricature un peu. Mais à l'époque, c'est ce que j'ai vécu. Vous voyez, c'est social. Ouais. Voilà. Voilà, comme ça, on met les pieds sous la table. On a vu le petit copain. On s'est réveillé à 10h30, 11h. Voilà, comme ça, on peut faire la grasse mat. Ben, c'est super, quoi, vous voyez. C'est une église de multitude. Et cette église de multitude s'est mise en tête qu'elle remplace Israël. Voilà. C'est ça, ce qu'on appelle la théologie de substitution, de remplacement. C'est-à-dire que Israël, c'est fini. De toute façon, c'est de leur faute, ils ont tué Jésus. C'est donc tous les juifs, c'est à mettre au panier, et on peut les mettre dans les chambres à gaz, tout ça, c'est tout ce qu'ils méritent. Voilà. Et c'est là que vient la racine de l'antisémitisme, c'est qu'ils ont tué Jésus. Okay. Ça, c'est les premiers siècles. Et ça a duré, dans l'église de multitude qu'on appelle catholique, jusqu'à quand? Quand est-ce que ça s'est arrêté, cette pensée de cette théologie qui substitue, alors au remplacement, remplace Israël? Ça s'est arrêté quand? Ça s'est arrêté quand? Pardon? Non? Non, Vatican II, c'est pas loin. 63 à 60, ça a duré plusieurs années, le concile du Vatican II. C'est au concile du Vatican II que le pape, avec tous les évêques qui ont travaillé sur la question, ont dit on arrête cette théologie de la substitution, on n'y croit plus, c'est une erreur. Alors imaginez, les catholiques sont capables de se repentir. Mais les protestants aujourd'hui continuent à croire à cette théologie-là. Hein, vous en êtes baba. C'est le pasteur Isagouri qui nous a dit ça. Il a dit, ils ont les pires problèmes avec ces chrétiens-là, évangéliques, hein, je parle. Qui croient cette... Alors, vous voyez, on critique les catholiques, pas peine de les critiquer, on fait la même chose. Et en plus, on continue à le faire aujourd'hui, alors qu'on a la révélation. Et donc, un peu de modestie hein, dans notre capacité de critiquer et de juger. Et la théologie de la substitution dit, bon, ben, ce tronc, il continue, puisque c'est l'Église. OK ? Donc, ce qui sort ici, c'est une aberration. Et le problème, c'est que l'aberration, c'est Dieu qui le fait. Et il confond les nations. Et c'est ça le grand dilemme de cette création d'Israël, c'est que ça confond et les nations et l'Église. Et dans l'Église, il y a beaucoup de gens, y compris les évangéliques, qui n'y ont pas. Alors il y a deux excès. Une fois qu'on croit ça, que Dieu utilise Israël comme un mystère pour confondre les nations, parce que Jésus va revenir à Sion. C'est là qu'il va poser ses pieds quand il va revenir. Donc c'est hautement important pour Dieu. Pas pour les hommes, parce que, comme l'a dit Perrine hier, il a dit, c'est quoi Jérusalem? Par rapport à Bruxelles, par rapport à New York, par rapport, c'est rien. C'est rien du tout. Un petit village, quoi. Côté. Eh ben, Dieu l'a choisi. Comme Bethléem, Dieu a choisi de revenir ici. Et c'est ça qui confond les nations. Mais si nous croyons à ça, nous rentrons dans la révélation du mystère. Et c'est ce que nous faisons sur ce week-end, de bien comprendre le mystère du sionisme. Alors, le sionisme, là aussi, il y a deux tendances. Parce qu'une fois qu'on croit en Sion, vous dites, ah ben c'est bon, je suis dans la vérité. Mais là aussi, des chrétiens, et évangéliques, je parle, retombent à nouveau dans deux excès. Les excès, hein, c'est notre gros problème. Au lieu d'être dans l'équilibre, qui est le plus difficile à tenir, mais par la grâce de Dieu, c'est ça qu'il faut faire, on tombe dans les excès. Le premier excès, dans le sionisme, c'est un... Bon, je peux rester sur cette image-là. Dans le sionisme, hein, ceux qui... Mettons, il y a des évangéliques ici qui sont sionistes, hein, dont nous, hein, nous croyons au retour, hein, mais ils retombent dans deux excès. Le premier excès, c'est de dire... on retourne à la loi de Moïse, puisque voilà, on rétablit tout, hein, puisque les Juifs, ils viennent en 48, Dieu les rétablit, donc c'est Dieu qui le fait, moi je le crois, mais on prend tout, on prend y compris la loi de Moïse. Voilà. Et je ne vous fais pas de dessin, parce qu'il y a des gens ici qui savent de quoi je parle, qui l'ont vécu dans la chair, malheureusement, que des chrétiens évangéliques disent, oui, il faut reprendre la loi. Voilà. Toute la loi, parce qu'on est juif. On retourne dans le tronc commun, etc., juif. Est-ce que ça, c'est juste? Est-ce qu'on retourne à la loi de Moïse? Hello? Non? Voilà. Parce qu'il y a une nouvelle loi. Il ne faut pas oublier que l'ancienne loi est révolue, terminée. C'est la nouvelle loi. Et la nouvelle loi, c'est que la parole est écrite dans nos cœurs. Okay? Dans nos cœurs. Et c'est de nos cœurs que nous devons chercher la face de Dieu, la vérité, la morale, l'éthique, tout ce que... Voilà. C'est notre cœur, c'est notre conscience, c'est notre être entier qui est engagé dans cette communion avec Dieu. Okay? Donc, ce n'est pas la loi. Donc, il y en a qui reviennent au légalisme. Ah, oh, ils prennent la loi. Il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, etc., etc. Ça, c'est le légalisme, c'est les galates. Et l'autre excès, donc ça, c'est le légalisme. Et l'autre excès, c'est quoi? Donc ça, c'est la judaïsation. Hein. Pardon? L'autre côté, c'est l'antisionisme. L'antisionisme, l'anti-judaïsme, l'anti, voilà. De dire, je ne comprends pas, donc je regarde. Et là, il y a beaucoup de protestants, et d'ailleurs, Perrine a dit même dans son église, voilà, on dit non. C'est l'anti-sionisme. Parce que le sionisme n'est pas accepté par le monde, donc ces chrétiens se sentent en marge, parce qu'ils ne peuvent pas expliquer. Mais Dieu ne nous a pas demandé d'expliquer ce que lui fait. Parce que lui, il est souverain. Imaginez que le roi est souverain. Vous croyez que Dieu fait ce qu'il veut? Est-ce qu'il demande votre avis pour faire ce qu'il veut? Faites attention parce que souvent, vous faites ça dans vos vies. Hein. Vous dites, moi je décide et je veux que Dieu bénisse. Non, non, mais vous rigolez. Il suffit de regarder un peu autour de nous, les chrétiens, beaucoup fonctionnent comme ça. Je décide et Dieu doit bénir, c'est tout. Je ne demande pas sa volonté, c'est la mienne qui compte. Vous voyez. Donc, bon, on n'est pas à l'abri de ça. Mais l'Église, quand elle fait ça, eh bien, elle impose à Dieu son histoire, l'histoire que lui a décidée. Et il a dit non, non, sionisme, ça, voilà, c'est des ultra-orthodoxes, c'est des gens qui vont trop loin. Israël, c'est comme une autre nation, c'est comme la France, c'est comme un autre pays. Or, si vous voulez être honnête, vous allez voir dans toute l'histoire ce qui est arrivé à Israël n'est jamais arrivé depuis la fondation du monde. Là, je n'ai pas le temps de vous passer un film, je vous le passerai cet après-midi. Vous allez être scotché. Moi, c'est comme ça que je me suis converti. Je dis, c'est pas vrai, ça. C'est un événement qui n'a jamais arrivé. En 48, ce qui est arrivé, c'est jamais arrivé dans l'histoire d'aucune civilisation. Et si vous ouvrez les yeux, eh bien, vous allez voir. Quelqu'un a dit, je sais pas si c'est Churchill, qui a dit que si vous ne croyez plus au miracle, ok, vous ne croyez plus, ben, regardez Israël. Regardez Israël. Et vous comprendrez que Dieu est le Dieu des miracles. Si vous ne croyez plus à aucun miracle, regardez Israël. Voyez-vous, les gens politiques, inconvertis, ils sont capables de dire ça. Ce n'est pas qu'ils rentrent dans le mystère, ils comprennent le mystère, mais ils savent que c'est un miracle. Okay. Hier, on a vu un film où les généraux d'Israël ont apporté toutes les vidéos et tout ce qui s'est passé pendant la guerre des six jours aux généraux aux États-Unis, au Pentagone. Ils ont passé 2 jours à éplucher ce qui s'est passé. Ils ont dit, écoutez, on ne peut rien expliquer. Ce n'est pas explicable, votre truc. Ce n'est pas une guerre, c'est un miracle. C'est un miracle, c'est tout. On ne peut pas expliquer. Vous voyez, parce que Dieu est intervenu, et vous le voyez sur le film, que Dieu arrête lui-même les chars syriens, etc. Mais vous voyez, le problème, c'est que tout ça, ce n'est pas connu. Et c'est pour ça qu'on fait ces week-ends, pour que vous connaissiez ces choses. Moi, je l'ai connu parce que je me suis converti en 67, quelques mois après ce qui s'est passé. Et cet ami qui m'a amené au Seigneur, il m'a amené les trucs de Paris Match. Et aujourd'hui, je me suis procuré le truc de Paris Match 67. Hein. Ça existe dans les archives, mais il faut les demander à les sortir. Hein. Vous savez, Paris Match, c'est des gros, un gros journal comme ça. Mais en grand, c'était les photos, des miracles. De la guerre des six jours. Et j'ai vu récemment, enfin hier, une vidéo, comment il s'appelle, politique là, qui se présente présidentielle, premier ministre de Sarkozy, Fillon, François Fillon, il explique devant son parterre qu'il était collé au transistor à la guerre des six jours, à la guerre des Kippour, et il a failli louper son examen de droit, parce que là, il était complètement focalisé sur ce qui se passait, quoi. C'était un événement incroyable, pire que l'atterrissage sur la Lune, quoi. Donc cet après-midi, on va montrer un film qui va vous démontrer ce que je viens de dire devant vous ce matin. Donc pour revenir à 48, l'État d'Israël a été proclamé par les Nations Unies en 1948, contre l'opposition pratiquement de toutes les nations. C'est un miracle, déjà en soi, de l'avoir proclamé. Et tout de suite, les Arabes ont voulu détruire cet État. Je passe sur les détails. En 1956, quelques années après, il y a eu le fameux événement du canal de Suez, okay, avec Nasser. Et là, les Français ont donné un petit coup de main aux Israélites et un peu les Anglais aussi. Et ils ont gagné la guerre, très rapidement. Mais vous savez ce qui s'est passé? Les Russes et les Américains ont appelé les Français en disant « Attention, vous avez intérêt à vous retirer tout de suite de là parce que vous menacez de la bombe atomique. » Et c'est comme ça que De Gaulle, après, a décidé de la bombe atomique. Il a dit « Attendez, on ne menace pas comme ça. Même les États-Unis, nous, on crée notre bombe atomique. » C'est comme ça que De Gaulle a décidé ça, hein, après ça. Mais voyez, comme quoi ça va loin. Ça va loin, les menaces. Okay, tout simplement parce qu'on a aidé Israël. On a aidé à survivre. On voulait l'écraser. Voyez-vous, ça, c'est Satan derrière. Hein, vous voyez bien Satan. Il veut tuer, voler, détruire. Regardez l'histoire. L'histoire parle de l'action de Dieu dans ce peuple. 56, ils ont gagné. Et Nasser, et ça c'est le pasteur Isaac Gourian qui nous a dit ça, il était tellement orgueilleux, c'est un type, un orgueil incroyable. Il a dit, oui, ils ont gagné parce qu'il y avait les Français et les Anglais qui étaient avec eux. Mais quand ils seront seuls, on va les écraser. Du coup, ils ont décidé que tous les Arabes en même temps allaient démarrer. Donc il y avait quatre pays qui se sont ligués, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et l'Irak. Et ils ont dit, en un jour, on va décider de détruire ce pays. Il y en a marre. Et ça, c'est en quelle année? 67. Et en 7 jours, ils ont écrasé tout le monde. Mais sur les films, vous voyez que c'est Dieu qui est intervenu. Et cet après-midi, je vais vous le montrer. Mais Israël, oui, a écrasé tout le monde. Mais ils sont restés dans l'orgueil. Vous savez, l'orgueil, c'est terrible. Malgré les miracles, malgré ce qui s'est passé, le peuple d'Israël n'a pas reconnu que c'est Dieu. Ils ont dit non, c'est notre armée, c'est Tsahal. Et ils ont défilé. Ouais, nos soldats, c'est les meilleurs, c'est le meilleur du monde et tout ça. Vous voyez, c'est la chair, quoi. Okay. Et qu'est-ce que Dieu a décidé? Vous voyez, ça, c'est Dieu. Vous voyez l'histoire de Dieu. Et vous comprenez votre histoire si vous comprenez l'histoire d'Israël. Et qu'est-ce que Dieu a décidé? Il a dit, je vais leur montrer que c'est moi. Vous avez l'impression de vivre une histoire que Michel raconte dans l'Ancien Testament. Hein, ouais, c'est ça qui est formidable. C'est que vous voyez Dieu agir aujourd'hui, comme il agit il y a 4000 ans. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quel était son plan? Quelle était sa stratégie? Ils ont dit, mais attendez, c'est ce peuple orgueilleux. Alors c'est De Gaulle qui disait ça, hein, c'est un peuple orgueilleux. Hein. Voilà. Mais Dieu aussi, il dit, c'est un peuple orgueilleux. Parce qu'il n'a pas reconnu qu'en 67, c'est Dieu qui lui a donné la victoire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais leur montrer que c'est moi. Et il a suggéré à deux nations arabes, cette fois-ci il n'y en a plus qu'à deux, mais c'est pas mal, c'est la Syrie et la Jordanie, non, ou l'Égypte. Non, l'Égypte, et Kippour. Hein. La guerre du Kippour. Kippour, vous savez ce que c'est comme fête? Du grand pardon. Alors je vous dis pas, c'est la plus grande fête en Israël, parce que tout le monde va dans la synagogue, même si vous n'êtes pas croyant. Hein. Et c'est comme ça que Dieu les a piégés. Ils sont tous partis à la synagogue. Et au moment où ils étaient à la synagogue, ils ont déclenché la guerre. Waouh! Tous les soldats, tout ça, ils étaient à la synagogue. Ils n'avaient rien. Donc ce qui fait, c'est qu'ils ont distribué vite fait dans la synagogue partout. Attention, la guerre commence et tout ça. Et ils ont prié. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre. Et c'est comme ça que Dieu a arrêté les Syriens. Je vous montrerai la cassette cet après-midi. C'est Dieu qui l'a fait. Et les Syriens, ils ont vu la main de Dieu. Ils ont été figés. Et en face, il y avait trois pauvres gars là avec un char. Il y avait 150 chars. Ils ont vu les chars retourner. Après, quand ils ont posé la question, ils ont dit, mais pourquoi vous êtes retournés? Parce qu'ils écrasaient comme une mouche, quoi. On dit, mais on a vu la main de Dieu. Et là, on est reparti. Et les anges qui sont apparus. Si ce n'est pas Dieu, vous voyez, c'est formidable. On vit aujourd'hui ce qu'on lit dans l'Ancien Testament, mais on vit aujourd'hui. C'est fantastique. Et les jeunes, là, vous êtes paf. C'est une fusée, quoi. C'est formidable, quoi. Vous vivez des temps historiques. C'est ça, moi, qui me plaît dans la vie chrétienne. C'est qu'on vit des temps où Dieu agit aujourd'hui. Aujourd'hui. Pas hier, pas demain, aujourd'hui. Et on le vit. Et là, eh bien, ils ont gagné la guerre du Kippour. Et là, les choses ont changé. Et le pasteur Isagouri nous a dit, là, les choses ont changé. Parce que même les non-croyants juifs, ils ont mis la Torah au centre du pays. Ils croient à la Torah. Parce qu'ils savent que ce n'étaient pas les soldats, il n'y en avait pas, qui pouvaient gagner cette guerre-là. Vous voyez comment Dieu agit? Comment Dieu est obligé d'agir pour ramener à la raison un peuple rebelle, un peuple obstiné, un peuple orgueilleux. Et nous le sommes aussi. Et parfois, dans nos épreuves, Dieu est obligé d'agir comme ça. Parce qu'il voit que nous ne voyons pas l'action de Dieu. Nous sommes là, ouais, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Puis ceci, cela, etc. Et attendez, stop, on se calme. Mets-moi là-dedans. Ah ben non, on oublie. Dieu, mes amis, est souverain. Il est roi. Il n'est pas roi simplement le dimanche quand on le chante. Il est roi dans nos vies à chaque instant. Et c'est là que les choses changent. Et c'est là qu'on peut lui laisser la souveraineté dans nos vies. Amen. Alors, comment je vais terminer mon message? Parce que j'avais beaucoup de passages à vous donner. L'Église ne remplace pas Israël. L'Église ne remplace pas. La théologie du remplacement, la substitution, est une erreur, c'est une hérésie. L'ancienne alliance n'a jamais été révoquée en ce qui concerne l'avenir de la terre d'Israël. La terre d'Israël, donc là on est sur le peuple qui est héritier donc par l'héritage biologique, hein, ils sont juifs par naissance, et la terre d'Israël qui a été donnée à Abraham. Oui. Dieu ne se repent pas de ses dons. Il a dit à Abraham, je te donne ce pays. C'est tout. Et hier, Perrine nous a dit clairement que les difficultés qu'on a, en particulier en Europe et dans le monde politique, c'est que c'est spirituel. C'est uniquement spirituel. Parce que derrière le nom d'Israël, le peuple, c'est le peuple de Dieu. Et le problème, c'est qu'on ne veut pas Dieu. Le problème qui gêne, c'est Dieu. C'est que c'est Dieu qui établit ce peuple. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Vous vous rendez compte? C'est inadmissible, ça. Nous, on est les chefs. Maintenant, on a découvert les ondes gravitationnelles. Vous vous rendez compte? On est les chefs de l'univers. Vous voyez l'orgueil? Mais parce que c'est le peuple de Dieu, et que je ne veux pas croire en Dieu, eh bien, je dis que c'est faux. Vous voyez la logique? C'est de l'orgueil. Et c'est parce que c'est le peuple de Dieu et que Dieu décide ce qu'il veut. Et s'il décide de le remettre dans son pays d'Israël, c'est son droit. Mais les hommes le contestent, ce droit. Ils disent non. Non, Dieu n'a pas le droit parce qu'il n'existe pas. Ouais. C'est ça la logique. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à débattre de ça avec des gens qui ne croient pas en Dieu, parce que voilà, ça ne doit même pas être évoqué, ce genre de choses. Et on garde ses chaussures, on dit « Attends, qu'est-ce qu'il a fini, lui ?» Voilà, ça c'est de l'orgueil. Eh bien, la terre, Dieu a décidé de les remettre dans leur terre. Le mot Palestine, qu'est-ce qu'il a donné ce nom, Palestine? Pardon? Oui, quel empereur? Adrien. L'empereur Adrien a nommé Palestine. Et Palestine, ça vient de quelle langue? Palestinia. Latin. Latin. Palestine. Palestine. Aujourd'hui, tous les gens que vous avez autour de vous, qui ne sont pas dans cette reconnaissance d'Israël, ils disent que qu'est-ce qui est l'envahisseur? C'est les Juifs. Vous savez que le mot Palestine, les Arabes ne peuvent même pas le prononcer. Ils ne peuvent pas. Parce que le P de Palestine n'existe pas en langue arabe. C'est en latin. Donc vous voyez, déjà là, vous êtes sur une piste. Ils ne peuvent pas être l'envahisseur d'un pays dont eux-mêmes ne reconnaissent pas leur existence. Ils ne peuvent pas le prononcer. Ils disent Palestine à la limite, mais pas Palestine. Palestine. Et en fait, eux, ils l'appellent Philistine. C'est pas très loin. Philistine. Et ça, c'est l'enseignement de Claude Desagoury. Écoutez-le mercredi soir. C'est pas le mien, mais je sais que c'est vrai. Philistine. Les Philistins, c'est qui? Ça a toujours été les ennemis d'Israël. Ceux qui voulaient écraser Israël. C'est Goliath, c'est tous les gens de Gaza, etc. C'est l'esprit qui est derrière, c'est l'esprit des Philistins. Et c'est comme ça qu'ils l'appellent Philistine, et pas Palestine. Donc vous voyez, déjà là, on est sur une erreur historique. Historique, sociologique, tout ce que vous voulez. Donc renseignez-vous pour avoir des arguments, pour discuter avec les gens. Mais là, c'est de l'intox complet, parce que Palestine, ça n'a jamais, 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 jamais été une terre arabe. Celui qui a déclaré la première fois, et on le voit dans une vidéo, hier on l'a vu, dans une vidéo qui déclare qu'il y a la Palestine et les Palestiniens, c'est qui? C'est Yasser Arafat. Il a dit, les Juifs, on va les égorger jusqu'à ce que tout le sang coule dans tout le pays d'Israël. Et c'est lui qui a dit, voilà, c'est le pays d'Israël, c'est le pays de la Palestine qui est aux Arabes. Donc vous voyez, c'est un mensonge qui est entretenu par les médias. Et vous croyez à ce mensonge si vous vérifiez pas vos sources. Vérifiez les sources que je vous donne et vous allez tomber sur la même réalité. Donc aujourd'hui, on est dans le mensonge de l'ennemi qui veut combattre Dieu tout le temps. Satan, il n'a de cesse que de combattre Dieu. C'est toute sa vie, toute sa vie. Et si vous rentrez dans son jeu, vous êtes entraîné par ce jeu. Voyez, ce qu'il faut, c'est couper les amarres, c'est couper les liens avec l'ennemi, c'est couper les liens avec le mensonge, c'est couper les liens avec tous les mensonges qu'il donne pour être dans la vérité. Amen. Et ce week-end, c'est un temps où nous voulons regarder à la parole de Dieu. Amen. Il y a cet exemple, cette promesse, mais je ne peux pas vous donner. Mais je vais le mettre sur le site, vous pourrez regarder tous les passages, parce que c'est que des passages bibliques que j'ai là ce matin. Le rassemblement d'Israël dans Ézéchiel 39, 25, où il est dit, ils habiteront en sécurité sur leur territoire. Je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. On reconnaîtra que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait déportés chez les nations et qui les réunit sur leur territoire. Je ne laisserai là-bas aucun d'entre eux. Je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. Ça, c'est Ézéchiel, chapitre 39. C'est juste un exemple. Deuxièmement, Israël est pardonné. Jérémie 50, 20, il dit, « On recherchera la faute d'Israël. » Et elle n'existera plus. Le péché de Juda, il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'ai laissé. Est-ce que c'est juste? On n'a rien à discuter, c'est Dieu qui décide. Si Dieu décide, vous voyez, on est confronté, avec Israël, on est confronté à la souveraineté de Dieu. Et ça confond notre raison. Et Perrine l'a dit hier, dit notre raison n'arrive pas à suivre. Or, quand on est basé sur la raison, comme nous, sur les richesses des Grecs, on est mal avec ça. On est mal parce que Dieu définit notre raison. Il fait ce qu'il veut. Et ça, ça définit notre raison. Il n'a pas le droit. Il faut qu'il fasse ce que moi j'ai décidé. Oui. Mais c'est là le problème de l'Occident. D'accepter ce que Dieu fait, ce que Dieu veut, et de l'accepter. Donc Israël est pardonné. Troisièmement, enfin, je fais des raccourcis là, désolé, vous allez certainement tirer de mauvaises conclusions de ce que je dis. C'est pas qu'aujourd'hui ils sont justes, hein, c'est pas ça. Mais Dieu a décidé de pardonner la faute à Israël de ce qui s'est passé et de les rétablir. Hein. C'est pas de les sauver, hein, ils sont pas sauvés pour autant. Il faut qu'ils acceptent Jésus. Troisièmement, l'alliance avec Israël ne sera jamais abrogée. Dans les psaumes, dans Jérémie, etc., psaume 105, il dit « L'Éternel se souvient à toujours de son alliance conclue avec Abraham, Isaac et Jacob. Il l'a établi comme une prescription pour Jacob, pour Israël, une alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Cinquièmement, Israël témoigne de la puissance et de la gloire de Dieu. Dans Sophonie, un petit prophète, chapitre 3, verset 1, il est dit « En ce temps-là, je vous ferai revenir, ce sera le temps où je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de renommée et de louange parmi tous les peuples de la terre. » Sixièmement, Jérusalem est capitale du royaume du Christ roi sur la terre. Dans Daniel, chapitre 3, verset 4, il est dit que les Israélites resteront longtemps sans roi et sans chef. Et après cela, les Israélites reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils trembleront en s'approchant de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Il y a aussi Zacharie, etc. Et je termine par le millénium. Le millénium qui est un règne de 1000 ans. Je ne sais pas si ce sera 1000 ans réel ou pas, peu importe. Ce sera un temps assez long qui est une réalité à venir. Les textes cités concernent le rétablissement d'Israël et l'instauration de Jérusalem comme capitale du royaume millénaire. Ils sont une clarté convaincante. Le règne de Christ en tant que roi sur la terre est attesté par trop de textes. Par exemple, Ésaïe, chapitre 2, verset 2, il est dit que ce sera un règne de paix. La justice y régnera, la longévité, la prospérité. Israël évangélisera toute la terre. Dans Luc, Jésus occupera le trône de David. Dans Psaume, Jérusalem sera le siège du gouvernement de Christ. Et dans Psaume 46, l'absence totale de guerre. Il est question de terre et de nation. Il n'est pas question d'église et de spirituel. Voyez-vous, nous vivons dans des temps extraordinaire que jamais aucun être humain a vécu et que tout le monde voudrait vivre. Et nous sommes là en train de nous lamenter. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Et la crise, machin. Non, sortez-vous un petit peu de votre sinistrose là. Okay, et rentrez dans ce que Dieu est en train de faire. Regardez à Israël. Et vous allez être émerveillés. Moi, c'est ce qui m'a amené à la conversion. Je vous en parlerai cet après-midi. Et c'est ce qui m'émerveille toujours. De ce que Dieu aujourd'hui est en train d'agir. Regardez, ouvrez les yeux. Perrine nous a dit qu'elle était réformée d'origine et tout ça. Et elle n'avait pas voulu croire à tout ça. Et elle avait une chance, c'est de connaître Rick Ridings, en qui elle avait confiance. Il nous a dit, parce que j'avais confiance en lui, mais uniquement à cause de ça, j'ai accepté d'aller en Israël, et encore des péripéties où Dieu l'a poussée. Elle est allée là-bas. Et en l'espace de 3 mois, elle a dit, mais c'est pas du tout ce que j'entends en France ou en Europe. Parce qu'elle était dans la politique à très haut niveau à Bruxelles. Hein. Donc elle sait ce qu'on pense en Europe. Elle dit, mais c'est pas du tout la réalité. Et au bout de 3 mois, elle a dit, je veux connaître la réalité par moi-même, pas ce qu'on me dit. Et il est resté un an et demi pour se forger la fille qu'elle est, avec la conviction qu'elle a, pour le porter au plus haut niveau du gouvernement. Voyez-vous, regardez par vous-même. Si vous ne le croyez pas, peu importe. Ce matin, si j'ai pu me donner une étincelle, tant mieux. Cherchez par vous-même. Regardez. Et vous sortirez de votre sinistrose. Parce que vous allez voir Dieu agir, bien sûr en vous, mais aussi dans la géopolitique, ce qui se passe aujourd'hui. et vous allez voir des choses qui vont vous émerveiller, de voir Dieu agir, de voir Dieu se glorifier, de voir Dieu étendre sa main, confondre les ennemis. Et personne ne peut toucher à Israël qui est la prunelle de l'œil de Dieu. Personne. Parce qu'il prépare son retour. Amen. Si vous êtes là cet après-midi, vous allez voir les films que je vous présenterai qui vous aideront à mieux saisir cette réalité. Je mettrai cette prédication sur le site parce que tout était rempli de versets bibliques, mais j'ai préféré vous illustrer plutôt que vous bombarder avec des versets bibliques. Mais tout l'Ancien Testament décrit ce qui se passe maintenant. Amen. Et c'est quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux, quelque chose qui nous met dans cette attente, on va dire Maranatha, Seigneur viens, et on va voir ton retour. Je ne sais pas quand, mais le retour en gloire sur la terre, sur le mont des Oliviers, va bientôt venir. Amen. Cela était la prière. Seigneur, nous te bénissons, parce que ta parole est la vérité. Et nous croyons en ta parole. Nous croyons, Seigneur, que toi, tu es souverain. Et Seigneur, que tu es souverain sur ce qui tu veux, sur ce que tu veux, Seigneur. Et que si tu as décidé maintenant de rétablir cette terre d'Israël et la donner à ce peuple ancien qui est revenu dans sa terre après 2000 ans et a retrouvé sa langue, a retrouvé toute cette civilisation qu'il a recréée, Seigneur, c'est toi qui l'as voulu. Et nous nous inclinons devant ta sagesse et devant ta décision. Et nous te prions pour que nous-mêmes, Seigneur, nous puissions sortir de tous ces clichés, de tous ces présupposés, de toutes ces choses qui nous ont été inculquées par les médias, afin que nous puissions voir ta parole. Et que nous puissions, Seigneur, nous appuyer sur ta parole et tes promesses, afin que nous puissions voir, et que nos yeux s'ouvrent sur cette réalité, afin que nous puissions nous réjouir ensemble, Seigneur, de ce que tu fais aujourd'hui, et que nous puissions être des témoins, Seigneur, auprès de nos collègues, auprès de nos amis, auprès de nos témoins, pour dire, regardez ce que Dieu fait. Il le fait à merveille. Que son nom soit béni. Amen.